Alors, vous n'hésitez pas à intervenir pour faire part de vos questions, de vos remarques. Je ne sais pas si tout de suite quelqu'un veut intervenir. Moi, peut-être, j'aimerais bien demander comment tu en es arrivé à parler de cette histoire, de ce sujet.
Alors, en fait, quand on est réalisateur, on a toujours des sujets qui sont un peu en attente ou qui sont un petit peu en sommeil ou qu'on se dit, ah, j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien faire ça ou peut-être un jour je ferai ça. Voilà, et moi, il y avait deux comme ça choses qui m'intéressaient. Ça faisait un moment que je me disais, j'aimerais bien faire un film sur une guerre africaine. J'ai beaucoup réfléchi, lu, voyagé au Congo. Et ça, voilà, je me disais, j'aimerais bien faire un film sur une guerre africaine. Et puis, je me disais aussi, j'aimerais bien faire quelque chose sur un reporter de guerre. Voilà. Mais bon, ça fait partie de mon travail d'avoir comme ça plein de choses. Je me dis, ah, j'aimerais bien. Et puis, parfois, ça n'arrive jamais. Et de fait, je ne trouvais pas le point d'entrée pour moi. Et puis, voilà, j'ai lu la nouvelle de la mort de Camille, je me suis intéressé à cette jeune femme, j'ai lu sur elle, j'ai vu ses photos, je me souviens très bien qu'il y avait, donc, il y avait au mois de septembre, donc quelques mois après sa mort, plusieurs expositions à Perpignan, au Festival de photojournalisme qu'on voit rapidement dans le film, plusieurs expositions Centrafrique, et j'ai trouvé les photos très 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 frappantes. Il y avait pas seulement les photos de Camille, là, il y avait aussi les photos d'autres photojournalistes. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, je crois que c'est le point d'entrée que j'attendais, que j'espérais et que j'aimerais raconter cette histoire.
Et alors, bien sûr, quelqu'un pour incarner Camille, donc Nina Meurice, comment tu es arrivé à ce choix?
On a lancé un grand casting dans lequel on a vu toutes sortes de gens, c'est-à-dire qu'on a vu à la fois un petit peu toutes les actrices françaises et belges de la tranche d'âge. Et puis aussi, je crois que j'ai vu Nina le premier jour de ce casting, au milieu d'une dizaine d'autres personnes, mais elle faisait partie des gens qui étaient vraiment tout à fait immédiatement dans le profil. Et puis je sais pas enfin, elle m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé Nina Meurice ce jour-là. Mais on a continué à chercher, on a cherché, on a. Après, on a lancé vraiment un immense casting. Je me suis mis à faire du casting sauvage. On a lancé des petites annonces où on disait qu'on cherchait pas forcément une actrice, mais que ça pouvait être quelqu'un qui avait une expérience d'humanitaire ou une jeune photographe ou. Et on a vu comme ça, on a reçu des centaines de profils, on a examiné avec David Bertrand, directeur de casting, des centaines de profils, pour finalement revenir à la personne qu'on avait vue le premier jour. Voilà. Bon, je suis comme, voilà, ça s'appelle du travail pas très rentable. Mais oui, Nina, elle avait un petit peu les deux choses que je cherchais pour incarner Camille. D'une part, je voulais quelqu'un qui ait les épaules. C'est-à-dire, je voulais quelqu'un où, quand je la vois, ou quand je suis avec elle, ou quand on joue ensemble, j'ai le sentiment, oui, cette jeune femme, elle pourrait être en Afrique, elle pourrait être dans la rue en Afrique, elle pourrait aller parler à des miliciens, elle pourrait, voilà, elle a cette sorte de courage et de débrouillardise et de, voilà, elle a les épaules pour le rôle. Ça, c'était une dimension. Le côté, je sais pas comment le dire, je trouve pas le bon terme, pardon. Je suis un peu fatigué ce soir. Pas baroudeuse et pas le bon terme, mais de quelqu'un, une femme de terrain. Voilà, donc les épaules. Et l'autre aspect que je cherchais chez l'actrice, c'est les yeux, c'est le regard. Et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a une dimension intérieure, spirituelle, qui, voilà, qui soit animée par quelque chose d'intérieur. Et c'est le mélange de ces deux choses que je voulais et qu'il y avait chez Nina Meurice.
Et ça, j'imagine que ça a été fait en relation avec la famille de Camille. Si...
Alors, c'est pas Marivonne qui a choisi Nina, mais je la surveille en disant ça. Mais non, c'est ça qui était très agréable de travailler avec la famille Lepage, avec Marivonne. C'était qu'à la fois, je les tenais au courant, j'écoutais leurs avis, mais en même temps, c'est pas des gens qui avaient qui allait prendre le pouvoir sur le film ou qui allait dire c'est nous qui décidons. Enfin, il y avait beaucoup de respect réciproque et c'était très agréable de travailler comme ça, vraiment dans les deux sens.
Bien sûr, si Marie-Vonne veut intervenir, voilà, le micro est ouvert.
Si tu veux contredire ce que je dis et dire le contraire, vas-y.
Oui.
Bonsoir. Comment le scénario a-t-il été écrit à partir des photos, à partir de notes ou à partir de témoignages ? Parce que c'est quand même très romancé après. Enfin, romancé, je ne sais pas. Vous allez m'expliquer, nous expliquer.
Alors, je dirais que le scénario a été écrit plutôt à partir de témoignages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où donc la famille Lepage m'a donné son accord pour faire le film, et du coup, Marie-Yvonne m'a ouvert sa liste de contacts de tous les gens qui avaient connu Camille et qu'elle connaissait parce que beaucoup l'avaient contactée après la mort de Camille. Et elle était souvent encore en contact avec beaucoup de ces gens-là. Et donc, j'ai eu la possibilité assez vite de rencontrer plein de gens qui avaient connu, et notamment qui avaient connu Camille dans le travail. Donc, ses collègues de travail, les gens qui avaient été avec elle au Sud-Soudan, en Centrafrique, qui avaient travaillé avec elle, ou aussi bien des gens qui avaient été des éditeurs photos, c'est-à-dire des gens travaillant au sein des journaux qu'il avait reçus, ou qui avaient vu ses photos à Perpignan. Enfin, voilà, j'ai rencontré un peu. Beaucoup, beaucoup de gens qu'il avait côtoyé dans le travail. J'ai aussi rencontré ses amis d'Angers. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle ici. Je ne vois pas d'emblée comme ça, mais ses amis d'Angers. J'ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui avaient connu Camille. Et ça a été ça la base du scénario. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a donné à la fois plein d'anecdotes, mais aussi le sentiment de connaître. Il y a eu un moment où j'ai eu l'impression de connaître très, très bien Camille. Et puis après, il faut construire un scénario, et pour ça, il faut amener amener de la fiction, c'est un peu une expression convenue, mais il faut construire un peu une dramaturgie. Donc il y a des choses, par exemple, notamment du côté des Centrafricains, j'ai tissé un petit peu des fils en rassemblant des personnages. Donc, par exemple, le personnage de Cédric dans le film, non, il s'appelle Cyril, pardon, oui, mais il est inspiré de deux personnages réels qui sont d'une part quelqu'un qui s'appelle Cédric, qui est un étudiant qui a composé ce rap anti-Séléka. Et puis, il est un condensé de lui avec une autre personne réelle qui n'a rien à voir dans la réalité, qui est Roca, le jeune chef anti-Balaka, avec qui Camille est morte, en fait. C'est-à-dire avec qui elle accompagnait dans une sorte de tournée dans l'ouest du pays. Et ils ont été pris dans une embuscade et elle est morte avec lui. J'ai rassemblé ces deux personnages. Donc j'ai un petit peu composé comme ça des fils en partant de choses réelles, mais en condensant. On a un petit peu besoin en scénario de retrouver qu'il y ait des personnages qui soient un petit peu qu'on puisse suivre un petit moment, quoi. Mais donc la base, en tout cas, c'était tous ces témoignages de tous ces gens qui avaient connu Camille, travaillé avec Camille et qui me donnaient le sentiment de bien la connaître. Je connaissais ces photos, évidemment, mais je me suis vraiment plongé très profondément dans ces photos, finalement un peu plus tard, quand on a préparé le tournage. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Vous avez l'air sceptique.
Bonsoir. Le film est émouvant et naturellement, on a une pensée pour Camille. Je voudrais savoir, après le scénario, c'est la réalisation. Où est-ce que vous avez tourné ? Est-ce qu'il y a des documents réels qui sont insérés dans le film ? On a l'impression qu'effectivement, il y a des scènes, en particulier des destructions, quand on voit des destructions. Et puis, les plans fixes, j'imagine que ce sont des photos de Camille ou c'est inspiré des photos de Camille ?
Alors, toutes les images arrêtées du film sont des photos de Camille Lepage. Hein, ça, c'est... J'aimais beaucoup l'idée que dans le film justement il y a ce dialogue avec les vraies photos de Camille. Et il y a aussi dans le film, il y en a pas beaucoup à l'arrivée finalement au terme du après le montage, mais il y a des petits passages où on a pris des archives télévisées des événements de 2013-2014. Il y en a très peu, il y en a une minute et quelques dans le film. C'était important pour moi qu'il y ait ce dialogue. Alors, c'est pas, les deux ne jouent pas de la même manière, mais je trouvais que d'avoir les photos de Camille dans le film, ça donnait quelque chose de, pour moi, très fort, qui était que deux choses, en fait. D'une part, c'est des photos, ben, c'est des photos de photojournalistes, donc c'est des photos qui documentent quelque chose de réel. Ça veut dire qu'on est, on a beau être dans un film de fiction, il y a, ce film de fiction s'ouvre sur quelque chose qui a vraiment existé et qui n'est pas juste de la fiction, qui n'est pas juste du cinéma. Et l'autre intérêt d'avoir ces photos de Camille, c'est que tout d'un coup, en fait, ces photos, à la fois, elles nous montrent des choses objectives, donc ce qui se passe à cette époque-là en Centrafrique, mais elles nous témoignent aussi de ce qui se passe dans la tête de Camille. C'est-à-dire, qu'est-ce que regarde cette jeune femme, comment elle ressent les choses. C'est, donc pour moi, je trouvais que c'était un accès très précieux, très, une manière de le faire un peu particulière, que je trouvais très intéressante, un accès à l'intimité de notre héroïne. Et donc, en fait, quand on a tourné les scènes, on s'est beaucoup inspiré des photos. C'est-à-dire que toutes les, y a plein de scènes où on tricote, en fait, entre ces trois formats, c'est-à-dire les images de fiction que nous, on tourne, les images télévisées prises dans les archives télévisées et les photos de Camille. Et entre ces trois formats, on tricote. Et donc, pour que ça puisse se tricoter bien, il fallait que ce que nous, on tourne, ressemble le plus possible aux photos de Camille. Donc on a beaucoup plongé à ce moment-là dans les photos de Camille, et que pas seulement celles qui étaient publiées, mais toutes. Donc nous aussi, on a fait ce qu'a fait Lorenzo Virgili pour l'exposition qui est en ce moment au Grand Théâtre. C'est-à-dire que nous aussi, on a plongé dans les disques durs pour aller voir plein de ces photos, les photos des anti-balaka, les photos des pillages, les photos des familles qui pleurent la perte d'un proche, etc., etc. Et ces photos de Camille ont à la fois nous ont donné les références pour recomposer des scènes proches avec les costumes, les décors, les couleurs même, les t-shirts, voilà, je recherchais plein de choses qui allaient bien matcher avec ces photos. Et aussi, je dirais même que ça a influencé profondément l'esthétique du film. Il y a plein de choses dans le film, dans la manière de cadrer tout ça, où on s'est beaucoup inspiré de la manière dont Camille photographiait. C'est vraiment très riche pour nous. Quand je dis nous, c'est moi et ma chef opératrice, donc la personne qui faisait l'image. C'était vraiment une grande source d'inspiration pour nous.
Y compris le format de l'image, je crois.
Et on a choisi ce format qui est inhabituel au cinéma, du 1,50, ce qui est un format qui n'existe quasiment jamais, mais qui est le format habituel de la photo. Parce qu'il n'était pas question pour nous de retailler les photos de Camille pour les mettre au format plus habituel du film. Donc on a préféré mettre le film au format des photos.
Et le lieu, non pas central, mais à l'origine, qui est la résidence universitaire, c'est une idée ou c'est la réalité ? Ou après d'après le témoignage ?
Non, je me souviens plus comment, mais j'avais entendu dire que Camille avait eu cette amitié, cette relation amicale avec ce jeune étudiant, celui qui compose un rap, donc Cédric Pidjou, que on a rencontré, Marie-Vonne et moi, à Bangui, que j'ai revu plus tard. Donc je savais qu'elle avait eu cette amitié avec un étudiant, et je trouvais ça chouette de tourner à la fac, en fait, et de représenter. Parce qu'une des choses qui revenait beaucoup dans ce que Camille écrivait sur ses photos, c'est que elle avait cette envie de raconter la jeunesse et de photographier des gens du même âge qu'elle. Et ça pouvait être aussi bien des miliciens que des jeunes étudiants. Il y avait eu des manifestations étudiantes à Bangui, notamment après le meurtre d'un juge, ce qu'on a reconstitué dans le film. Et donc j'avais senti qu'il y avait quelque chose de très propre au regard que Camille portait sur ce pays, de photographier la jeunesse. Je trouvais ça vraiment intéressant de s'installer à l'université pour ça. Et ça, oui, ça vient de quelque chose qui me semble pas. Non, parce que je me souviens qu'effectivement, j'ai eu plusieurs récits sur Camille dans l'université avec ses étudiants. Et non, il y a un fond historique, même si après, on n'était pas là, donc il faut bien le réinventer à notre manière, mais il y a un fond historique. Et il se trouve ensuite qu'après, plusieurs de mes étudiants en cinéma de Bangui, ils étaient de cette fac, et donc Et donc voilà, c'était facile de rentrer dedans et de créer des liens. Et j'ai produit ensuite un film centrafricain d'un jeune réalisateur centrafricain qui s'appelle Nous étudiants et qui se passe dans cette université, vraiment qui raconte la vie des étudiants. Je trouve ça vraiment, c'est un lieu très intéressant, cette université.
Parce qu'il y a quelque chose qui va de soi, mais je trouve qu'il est important de le dire, c'est que le film a été tourné en Centrafrique, alors qu'on sait bien qu'il y a des films de fiction qui, par exemple, concernent y compris des photojournalistes ou des journalistes, on parlait de Salvador là tout à l'heure, qui n'ont pas été tournés dans les pays concernés. Et là, je trouve que quand même, il faut saluer cette démarche, ce courage qu'il a fallu pour tourner dans les lieux où les conflits se poursuivent, quoi.
Oui, pour moi, c'était une évidence depuis le début qu'on allait tourner ce film en Centrafrique, qu'on n'allait pas le tourner ailleurs, qu'on n'allait pas le tourner, enfin, qu'on allait le tourner en Centrafrique. C'est un peu une évidence, ça fait partie de ma démarche généralement quand je travaille. Voilà, on fait un film sur la Centrafrique, en plus on fait un film sur une jeune femme qui a toujours dit qu'il fallait s'intéresser à ce pays, qu'il fallait qu'on ne s'y intéressait pas assez. Donc je ne vais pas faire un film sur cette jeune femme et puis ensuite aller tourner dans un pays où ce serait supposément plus facile, je ne sais pas, au Cameroun ou au Sénégal. Non, donc on a fait ça en Centrafrique et ça a été, en fait, ça a été génial, en fait. Et ça a été bien moins compliqué que ce qu'on aurait pu penser. Parce que c'est sûr, a priori, sur le papier, on se dit ouais, c'est un pays qui est encore plus ou moins, à ce moment-là, qui est encore plus ou moins à la limite de la guerre civile, en tout cas dans une zone de tension. Donc ça semble dingue, un pays où jamais une fiction quasiment ne s'est tournée, en tout cas rien depuis 20 ans, et jamais en ville. Donc ça semble un peu dingue, le producteur, il vous regarde comme un dingue. Mais en fait, on l'a fait, c'était pas si compliqué que ça. Et c'était super. Parce que forcément, tous les gens qui travaillent sur le film, tous les gens qui travaillent sur, ils ont envie de participer. Ils ne viennent pas juste comme des mercenaires pour toucher leur argent à la fin de la journée. Ils viennent parce que ça raconte leur pays, que c'est une histoire qui leur parle et qu'ils ont envie de participer. Et du coup, ça donne une synergie qui est belle.
Et je trouve ça très beau parce que donc, tu en as parlé. Il y a eu une démarche avant le tournage. Donc de formation de jeunes à l'esthétique documentaire, avec des ateliers qui ont été mis en place, avec même une structure de production. Donc toute une démarche, comment dire, comme pour apprivoiser, comme pour se faire accepter du pays. Et ça, je sais pas, je trouve que voilà, là, bon, tu peux montrer des choses que personne d'autre n'aurait pu montrer s'il n'avait pas fait ça.
C'est quelque chose que j'ai fait au départ, je l'ai fait de manière pas plutôt désintéressée. C'est-à-dire je me suis dit, bon, je vais venir prendre quelque chose dans ce pays. Est-ce que je peux donner quelque chose en échange? Et bon, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Donc, j'ai dit, je vais faire des formations au cinéma documentaire, parce que le cinéma documentaire, ça coûte moins cher que le cinéma de fiction. C'est plus raisonnable d'initier ça. Donc, j'ai fait... En 2017, un premier atelier au cinéma documentaire avec 10 jeunes, qu'on a lancé une grande campagne de sélection. On a reçu plein de candidats et on a pris 10 jeunes. Et on a fait comme ça un atelier de 2 mois où chacun a fait son film et qu'on a accompagné pendant ces 2 mois. Et c'était tellement génial, en fait, cet atelier, qu'on en a refait un autre derrière les années suivantes. Et en fait, après... Donc ça, c'était en 2017. En 2018, on a tourné le film. Et de fait, quand j'ai tourné le film, tous ces 10 jeunes que j'avais formés, ils sont venus travailler dans l'équipe du film, tous. Et ça a été... au début, je l'ai fait de manière plutôt désintéressée, mais finalement, ça a été hyper utile pour moi. C'est-à-dire que jamais on aurait pu tourner le film comme ça sans ces 10 alliés qu'on avait, qui étaient des gens justement avec qui je n'avais pas eu un rapport d'abord mercantile, mais on avait un rapport... de prof à élève et puis de très amical et très, très sincère et très profond. Et ils ont été mes meilleurs alliés pour rentrer dans le pays et pour filmer. Et ça a été le moyen d'avoir une équipe mixte, c'est-à-dire mixte au sens européen et centrafricain, dans un pays où il n'y avait aucune industrie cinématographique. Donc sans ça, on n'aurait pas eu ça. On n'aurait été que des étrangers qui arrivent là comme des corps étrangers et qui auraient été beaucoup plus compliqué de tourner. Donc ça a été super. Et après, du coup, c'était tellement génial, cette expérience avec eux, qu'on a continué. On a refait des ateliers en 2018-2019. Et puis du coup, après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'il n'y a pas d'industrie cinématographique dans ce pays, donc on a formé des gens, mais il n'y a rien pour eux. Donc j'ai créé avec deux autres personnes une maison de production là-bas, et on a produit 4 longs métrages documentaires déjà, qui ont eu des prix partout dans le monde, dont ce film Nous étudiants dont je vous parlais, qui a fait sa première à la Berlinale. Enfin, vraiment expérience super. Et puis du coup, c'était tellement super qu'après, j'ai dit, bon, bah, maintenant, on va monter une école de cinéma. Donc j'ai fait ça avec la Cinéfabrique, qui est l'école nationale de cinéma qui est à Lyon, en France. On a monté sur un projet, donc un gros projet cette fois-ci. Je ne sais pas dans quoi je m'étais engagé, là, encore. Et c'était comme une école de cinéma, c'est très cher, c'est une école de cinéma éphémère, c'est-à-dire qu'il y a eu une seule promotion, mais on a formé comme ça une promotion de jeunes à tous les métiers du cinéma. Et voilà. Et c'est, j'espère qu'ils vont continuer. Et moi, j'ai toujours cette maison de production... sur les bras et on continue à avoir développé des projets et tout ça. Et j'ai toujours eu le sentiment quand je faisais ça que j'étais... je me disais, Camille, elle doit penser que je suis un mec bien. Et c'était important pour moi, pardon, de me dire que j'avais la validation de Camille. Je me monte toujours vers là-haut, bien que je ne sois pas une personne religieuse, mais je sais pas, bon, voilà, je pense à Camille, elle est là-haut. Et je me dis, je suis toujours dit, voilà, Camille qui était très engagée pour les Centrafricains ou pour les Soudanais, de toujours penser qu'on n'en faisait pas assez pour eux, qu'on ne s'intéressait pas assez à eux. Je suis sûr que Camille, si elle avait su que je faisais un film sur elle, elle se serait dit, mais pourquoi il s'intéresse à une blanche alors qu'il ne s'intéresse pas à tous les pauvres Centrafricains qui sont morts, et il y a une seule blanche qui meurt, et c'est à elle qui s'intéresse. Je suis sûr qu'elle pense ça. Donc j'ai fait ça aussi en pensant à elle, en me disant, je pense qu'elle est d'accord avec moi sur ce coup-là. Bon, merci pour elle.
Bonsoir. Moi, je trouve que c'est un film qui est assez pudique, finalement, même si vous en montrez beaucoup. Donc, entre la différence entre un documentaire et une fiction, j'aurais presque pensé que c'était plus un documentaire. Donc, je vais garder cette idée-là. Et je voudrais juste savoir pourquoi, peut-être que c'est à partir du scénario que vous avez décidé ça, mais on voit surtout le regard du camp des catholiques
ou des anti-balakas.
Voilà, des anti-balakas, et pas l'autre côté de ceux qui, des musulmans, quoi, puisque laisser les cas, voilà.
En fait, c'est vrai que c'est un choix de scénario qui a été fait. Il se trouve que quand Camille est morte, elle accompagnait un groupe anti-balakas. Et ça détermine beaucoup le choix de scénario qui est fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais qu'elle est morte avec eux, ça veut dire que quelque part, il faut que le film me conduise vers cette fin. Et ça ne veut pas dire que Camille préférait un camp à un autre. Et Camille avait passé beaucoup de temps aussi avec les musulmans du PK5. Le PK5, c'est le quartier majoritairement musulman de Bangui. Donc je ne pense pas que Camille avait une préférence pour un camp ou un autre. Et ce n'est pas non plus ça que le film veut dire. Mais voilà, là, pour le coup, je suis un peu déterminé par l'histoire vraie où Camille, quand elle est morte, accompagnait, il se trouve, à cette semaine-là, un groupe d'anti-balaka qui patrouillait dans la région de Berberati et Boire. Et donc, c'est avec eux qu'elle est morte. Et voilà, ça m'obligeait un petit peu à conduire mon fil vers là. Et il y a aussi autre chose, c'est que... les Séléka étaient un groupe plus organisé, alors que les anti-balaka, il y avait beaucoup de milices avec des très jeunes gens. Et je pense que Camille avait, et on voit déjà ça dans ses photos du Sud-Soudan, avait une attirance particulière pour ces groupes de tout jeunes gens, parce que ça faisait partie de son projet sur la jeunesse. Et c'est ça aussi, c'était un peu pour moi un fil conducteur de ma lecture qui ne prétend pas être la seule lecture possible, hein, c'est ma lecture personnelle de l'itinéraire de Camille, c'est que vraiment, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était de raconter la jeunesse, et que c'est beaucoup cette volonté de raconter la jeunesse qui l'a menée vers les anti-balakas, c'est-à-dire ces groupes de très jeunes gens qui partent faire la guerre. Et ces groupes de très jeunes gens qui partent faire la guerre ressemblent à ces milices noires qu'elle a photographiées au Sud-Soudan, et qu'on voit dans les photos si vous allez au théâtre.
Bonsoir, merci pour votre film. J'aimerais savoir si vous savez ce qu'il reste de Camille en Centrafrique.
C'est difficile de répondre. Je pense que dans un pays où il y a des... Si je réponds vraiment honnêtement, dans un pays où il y a tellement de tragédies, où tellement de gens sont morts, je pense qu'il n'y a pas la même place pour les Centrafricains pour s'apitoyer sur cette jeune femme française qui est venue mourir chez eux, même si je pense qu'ils ont beaucoup de gens, ont beaucoup de sympathie pour elle et pour son itinéraire. Mais tellement de gens ont perdu tous leurs proches, ont perdu les gens, que tellement de tragédies ont effacé les autres tragédies, que je sais pas très bien qu'est-ce qui reste d'elle. Je saurais pas dire, en fait. Mais voilà, les Centrafricains ont leur propre mort, et ils en ont eu beaucoup, et ils continuent à en avoir. Je pense qu'ils voilà, ils pensent pas forcément tous les jours à Camille.
Et je sais pas, enfin peut-être Marie-Vonne ou toi, je sais pas. Mais il y a une procédure, non ?
Je peux répondre sur le point de qu'est-ce qui reste de Camille. En Centrafrique, je veux rester sur Bangui parce que c'est quand même là. Alors c'est vrai que les gens qui l'ont connue il y a 10 ans ou 12 ans peuvent se souvenir encore d'elle. Après, ceux qui sont nus derrière, ou qui, ils l'ont oublié, hein, bien évidemment, comme la majorité des Français ont oublié aussi Camille, parce que voilà, la vie continue et les événements se succèdent les uns après les autres. Par contre, il y a des moments, de temps en temps, ils font des clins d'œil. Ça peut être la Journée internationale de la femme, ça peut être une promotion de classe à Bangui, ça peut être ce genre de choses. Mais c'est très ponctuel, c'est pas... je pense que Boris a raison, il ne faut pas imaginer que tous les gens de Centrafrique ou de Bangui ou des environs portent Camille, pensent à Camille. Par contre, ils l'ont portée pas mal aux nues, peu de temps après son décès, parce que c'était l'image, Camille, quand même, d'une journaliste qui habitait sur place, qui vivait avec eux, qu'ils connaissaient. Et voilà, ça les a touchés aussi à un moment donné. Mais il y a eu bien d'autres... moment difficile pour eux. Qu'est-ce que je peux dire sur Camille à Bangui, en Centrafrique. Sur le dossier. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose. Hein. C'est un dossier comme beaucoup d'autres. Hein. Vous savez, quand il y a des journalistes qui sont assassinés, il y a des procédures qui sont mises en route. C'est toujours très long. C'est très long parce que tout simplement on ne va pas comme ça sur les lieux d'une embuscade la fleur au fusil en disant tiens on va aller faire un tour. Non, les enquêteurs français ne se déplacent pas comme ça, c'est dangereux encore maintenant, hein. Et puis ça rejoint un petit peu ce que disait Boris, il n'y a pas que Camille, il y a tellement de journalistes ou de photojournalistes qui ont été tués ces dernières années que bien évidemment il y a des enquêtes, bien évidemment il y a des dossiers, mais un dossier qui peut être traité pendant 5 ans, 10 ans ou plus, aboutira peut-être ou pas. Donc il ne faut pas se faire trop une fixation là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, si c'est un crime reconnu comme un crime de guerre, ça peut être dans d'autres structures et être porté plus fortement dans d'autres juridictions.
Je crois que ce qu'il faut se représenter aussi à propos de la procédure, c'est que les relations franco-centrafricaines n'étant pas au beau fixe depuis quelques années, les autorités centrafricaines ne vont pas faire d'efforts pour faire plaisir à leurs ex-alliés français sur ce dossier. Et puis, à mon sens, à moi, le vrai enjeu en Centrafrique de ces enquêtes, c'est vraiment la lutte contre l'impunité, c'est d'arriver à traduire en justice les grands criminels de guerre. C'est ça qui me semble la chose importante dans ce pays.
Oui, alors ce qui m'a perturbé, c'est à la fin, c'est-à-dire... C'est deux, trois trajets en moto la machette à la main, Camille, comme ça que vous la représentez, avec son appareil photo, et les dernières scènes où c'est plus l'appareil photo qui compte, et la photo, qui est, l'appareil est en premier plan sur la photo, et c'est le rapport de l'appareil photo, de faire la photo, qui est, la question est posée au départ avec certains journalistes pros qui disent, bon, non, on ne l'envoie pas, on peut pas la faire paraître, et puis d'autres à la fin qui apparaissent à l'image, mais c'est l'appareil photo qui fait que peut-être dans ces personnages à moto qui vont faire se battre, faire la guerre, je ne sais pas si c'est faire la guerre, mais est-ce que l'appareil photo n'entretient pas ou n'aggrave pas une attitude un peu excessive des combattants?
Je ne suis pas sûr que ces questions... je ne saurais pas vous répondre. Je sais que ces questions se sont posées, mais pas vraiment pour ce qui est raconté à la fin, mais plus pour ce qui est raconté au milieu du film, c'est-à-dire au moment où c'est vraiment la crise à Bangui, où le 5 décembre, les anti-balakas attaquent la ville, où ensuite les sélékas répliquent, où il y a des massacres des deux côtés, il y a beaucoup de morts, il y a des lynchages de musulmans dans les rues. Et à ce moment-là, je sais que les photographes se sont beaucoup demandé, les photographes, c'est-à-dire Camille et ses collègues, qu'on voit à un moment dans une chambre d'hôtel, se sont beaucoup demandé qu'est-ce que jouaient les appareils photo, parce que beaucoup de gens, au début de cette crise, après ça a changé, beaucoup de gens les tiraient par la manche en leur disant « Mais viens, regarde, prends-moi en photo, regarde comment je vais tuer ce musulman, etc. » Et tout d'un coup, les photographes se sont beaucoup interrogés sur qu'est-ce qu'on est en train de faire là, en fait. Et Camille aussi, je pense, est beaucoup intéressée sur qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là. Est-ce que l'appareil photo est complice des gens qui commettent des atrocités? Est-ce que l'appareil photo peut aggraver les choses, etc. Mais ça, je pense, c'est très lié à ce moment de Bangui en décembre 2013, janvier 2014, c'est-à-dire ces moments de grands troubles, de grands, où il y a plein de massacres et tout ça, et où les journalistes se sont beaucoup interrogés, ils passaient des soirées entières à se demander qu'est-ce qu'il fallait faire de leurs photos, est-ce qu'il fallait photographier ça, pas le photographier, est-ce qu'il fallait envoyer les photos à Paris, pas les envoyer, qu'est-ce qu'il fallait montrer de ce conflit, etc. Mais ensuite, sur la fin, moi, je ressens très différemment ce qui se passe à la fin, où Camille est dans une logique d'immersion dans un groupe, et où je n'ai pas le sentiment qu'il y ait ce même rapport spectaculaire à l'image, à la photo, parce qu'elle est avec des gens qu'elle côtoie. En fait, ce n'est pas la même chose que d'être dans la rue et tout d'un coup, quelqu'un vient vous chercher et vous tire par la manche et vous dit « Regarde ça, regarde ça ». C'est des gens avec qui vous passez du temps, avec qui vous... Donc oui, Camille, à la fin de sa vie, là aussi, le film part de quelque chose de réel. C'est-à-dire que Camille, elle a... Les deux dernières semaines de sa vie a accompagné un groupe anti-balaka en immersion pour essayer de se rendre compte que c'était quoi un groupe d'anti-balaka, c'est quoi une milice, c'est quoi ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils cherchent, à quoi ils rêvent. J'ai pas ce sentiment-là, moi, que dans ces moments-là, l'appareil photo joue un rôle spectaculaire et du coup d'aggravation de la violence. C'est pas le sentiment que j'ai. Donc, si c'est le sentiment que vous a donné le film. C'était pas exactement mon intention dans ce moment-là.
En fait, je voulais vous remercier pour votre film et puis je voulais vous poser justement cette question de photographie, vas-y, regarde ce que je suis capable de faire. Mais vous avez déjà répondu. Merci.
Oui, donc merci beaucoup. Alors, je me souviens de votre film Hope que vous étiez venu présenter en 2014 à premier plan. Et à une question sur le désir, votre désir à vous, hein, votre désir profond, quand vous aviez fait ce film, vous aviez répondu que c'était de vous confronter au réel, de vous confronter à l'horreur que vivaient tous ces migrants. Donc voilà, donc je voudrais vous poser la question pour Camille. Qu'est-ce qu'il en a été de son désir à elle, hein, parce qu'à un moment donné, dans le film, vous dites « le risque, c'est la vie ». Et à un autre moment, vous dites, si je me souviens bien, « qu'est-ce qu'il y a dans le regard de celui qui a tué ?»
Alors voilà, je me suis posé des questions et je voulais vous demander quel était son désir à elle, si vous avez pu l'approcher un peu, hein, plus que beaucoup d'autres.
C'est pas une question facile. Ben quand vous citez qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qu'il y a dans l'œil de celui qui a dans le regard celui qui a tué, je pense que quand j'écris ça, je m'inspire de quelque chose que Camille a écrit quelque part. Je pense qu'elle avait écrit ça justement à propos des miliciens loups noirs qu'elle avait photographiés au Sud-Soudan, où elle photographie des miliciens qui reviennent de la guerre, où ils ont sans doute commis des atrocités, mais qui sont là, qui ont l'air très joyeux, et qui sont jeunes, et à qui Camille ressent une forme d'empathie malgré tout. Bon, peut-être Marie-Vonne va répondre après moi, et elle va dire ça, comment elle répondrait à ça, mais je vais répondre quand même, je ne vais pas me défiler. Je vais reprendre quelque chose que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu le sentiment que ce qui intéressait Camille, c'était... de raconter la jeunesse et de raconter une autre jeunesse que la sienne, mais à laquelle elle pouvait se connecter. C'est-à-dire que de prendre des gens qui ont... C'est quelque chose qu'elle répète plusieurs fois dans des choses qu'elle a écrites, où elle dit « j'aurais pu être cette personne qui a commis des atrocités si j'étais, au lieu d'être né là, j'étais né là-bas. » Voilà. Et je pense qu'elle était très fascinée par ça, le fait que des gens de son âge aient une vie complètement différente. Et très mu par l'envie de se connecter à des gens très loin d'elle. En tout cas, c'est comme ça que je la lis, moi, parce que c'est vrai que c'est en ce sens-là que je me sens très proche d'elle.
Oui, voilà, oui, quel est le
C'est-à-dire que moi aussi, je fais des films sur des gens très différents de moi, mais auxquels j'essaye de me connecter très fort. Et quand, à la fin du film, là, pour le coup, il y a une voix off, presque à la fin du film, dans cette scène où il y a où elle photographie ces anti-balakas qui se déguisent avec de la paille. Et il y a une voix off qui dit, je me souviens plus ce qu'elle dit, cette voix off, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film et que je l'ai écrit encore plus. Elle dit, c'est bizarre ma vie, pourquoi j'ai besoin d'aller au bout du monde pour me trouver, pour trouver ma place. Et là, clairement, je prête à Camille des propos que je pourrais dire moi-même. Et ça, ce n'est pas des mots que Camille a écrits, c'est des mots que je lui prête, que je lui mets dans sa bouche et qui valent pour moi aussi. Et c'est vrai que, voilà, quand je raconte Camille et que je la raconte à partir de ce désir propre que j'ai de me connecter à des gens très loin de moi. Moi, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie, ça ne m'intéresse pas de raconter la vie de gens comme moi, mais de raconter des gens très lointains, comme les personnages de Hope, comme les personnages de mon prochain film, dont on parlera la prochaine fois.
Oui, c'est ça ce qu'on avait senti dans le film Hope, justement. Oui, qui était
voilà. Dans le film de Hope, c'est ça, raconter l'histoire de migrants, qui me semble tellement plus intéressante que mon histoire à moi. Mais je suis sûr que Marie-Vonne va parler autrement de...
Non, mais par contre... Si je peux faire une petite remarque, c'est que c'est vrai que Boris axe beaucoup son film sur la jeunesse. Et c'est très bien, c'est son choix, c'est son axe de film. C'est vrai que moi, quand je parle de Camille, c'est marrant parce qu'en fait, je ne parle pratiquement jamais de la jeunesse. Par contre, je répète souvent que Camille, avec son engagement, ses valeurs, c'était vraiment de témoigner sur les populations qui souffrent dans des pays en conflit, dont personne ne parle suffisamment, des personnes innocentes. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, parce que Camille l'a écrit et réécrit, et je trouve que c'est tellement transparent dans ses reportages, peut-être plus d'ailleurs au Sud-Soudan que ça ne l'est en Centrafrique, mais c'est vrai que l'aspect jeunesse, c'est marrant, c'est pas un thème que j'apporte beaucoup. Après, chacun son truc, mais j'insiste beaucoup plus sur les conditions de vie de Camille. Parce que ça, vraiment, elle l'a écrit. Ça, elle le voulait. Mais la jeunesse, c'est vrai qu'elle baigne dedans tout le temps. Il faut dire aussi que les jeunes, qu'ils soient anti-balaka ou CDK, c'était vraiment des gamins, quoi. Donc, elle était sûrement bien avec eux. Ouais. Voilà ce que je voulais rajouter.
Merci. Bonjour, un grand merci pour votre film. J'étais interpellée aussi par les attitudes à plusieurs moments du film, notamment au début quand elle parle avec le journaliste américain ou anglais, et que celui-ci insiste sur comment dire, le travail de l'image, il faut que ce soit plus comme ci ou plus comme ça. Et c'est on retrouve un peu une approche un peu comme ça, notamment quand elle est à Libération à un moment, on lui demande à nouveau plutôt l'Ukraine, tout ça. Donc ça me questionne un petit peu justement sur... voilà un peu cette tension entre l'axe attendu, entre guillemets, justement par une certaine dimension de la profession dont elle voulait, enfin, dont elle se prétendait, et de l'autre côté, justement, la vision qu'elle essayait de faire passer. Donc, comment vous avez fait sentir cette tension, mais j'avais envie de vous entendre un peu plus sur ça.
Bon, mais c'est vrai que quand vous êtes photojournaliste, je pense que vous êtes, j'allais dire, le cul entre deux chaises, ce qui n'est pas élégant du tout et ce qui n'est pas tout à fait. Juste, mais c'est que vous faites un métier qui est entre deux choses. C'est que d'un côté, vous faites, si vous êtes photojournaliste, c'est-à-dire que vous êtes journaliste, c'est-à-dire qu'il faut vendre à la presse, donc il faut vendre, donc il faut que la presse vous prenne vos photos. Donc il faut une forme d'adéquation à la demande qui est la demande de la presse. Donc comme dans la scène de Libération, on lui dit aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on va vendre. Et je pense que Camille, elle aussi, était... habité par ce désir de vendre ses photos dans la presse et que quand en Centrafrique, tout d'un coup, elle s'est mise à vendre pas mal de photos parce qu'elle s'est retrouvée au cœur de l'événement, elle était très contente de ça. Ça, c'est une dimension. Mais je pense qu'il y a une autre dimension de l'autre côté qui est que beaucoup de ces photographes, de ces photojournalistes tendent vers une photo qu'on appelle plutôt une photo documentaire, qui n'est plus tout à fait du journalisme, mais qui est du documentaire. C'est-à-dire que c'est du travail sur le long terme, et un travail plus personnel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui ne se fait plus à la commande pour tel ou tel journal ou pour tel ou tel éditeur qui vous dit « fais ci, fais ça, j'ai besoin d'une journée de ci et une journée de ça et une image de ci », mais que c'est que ces journalistes sont des vrais... Enfin, j'aime pas le terme, enfin, des vrais artistes qui ont en tout cas une ligne et qui suivent quelque chose, y compris en faisant des commandes qui leur permettent de manger, mais de vivre, de gagner de l'argent, mais qui, en faisant ses commandes, continue à accumuler un matériau pour un projet de plus long terme. Et en fait, je pense que la plupart des photojournalistes vivent entre ces deux contraintes, qui sont d'une part une contrainte un peu alimentaire, mais ce n'est pas seulement alimentaire, parce que la presse, c'est noble aussi. C'est bien que... Et puis Camille croyait à l'information, comme le rappelait Marie-Yvonne. Elle voulait que la presse mondiale parle de ces pays un peu oubliés. Mais voilà, cette dimension plus tournée vers la presse et donc vers une forme de... vers l'information rapide et tout ça. Et puis d'un autre côté, un travail de longue haleine, plus personnel, qui se construit au fil des années. Et moi, j'ai le sentiment, c'est pour ça que quand je parle tout le temps de la jeunesse chez Camille, je ne sais même pas si elle-même... on était complètement consciente. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression... Elle est morte, malheureusement, très jeune, Camille, à un moment où elle était encore en train de se chercher. C'est-à-dire qu'elle avait fait énormément de photos et de photos magnifiques. Mais beaucoup de photojournalistes disent ça. Le plus difficile dans la profession, c'est pas de faire les photos, c'est de les éditer. Ce qu'ils appellent l'editing, c'est vous sortez un jour, vous prenez 300 photos, vous rentrez chez vous le soir, et il faut les éditer, c'est-à-dire qu'il faut en choisir 10. Et faire cet editing, c'est compliqué. Puis après, vous en prenez 10 ce jour-là, mais en fait, vous n'avez pas, pas travaillé juste une journée, mais vous avez passé un mois dans un pays, donc vous n'avez pas pris 300 photos, mais vous en avez pris 10 000. Et après, vous voulez faire un sujet avec ça, ou faire un livre. Et donc là, il faut encore plus éditer. Et comment se construit cet editing? Et ça, pour tous les photographes, même ceux qui sont expérimentés, je crois que c'est très difficile. Ça demande une maturité, une conscience de ce qu'on est comme photographe qui s'acquiert très lentement, je pense qu'il est difficile à acquérir. Et je pense que Camille n'était qu'au début de ce chemin de comprendre qui elle était comme photographe. Enfin, qu'elle était encore en train de se chercher et de continuer à avancer dans ce chemin-là. Et alors après, c'est ma lecture personnelle et mon interprétation subjective qui ne vaut rien de plus que ce que moi je dis. J'ai ce sentiment qu'elle poursuivait un travail sur la jeunesse qui peut-être un jour aurait donné un livre sur cette jeunesse africaine dans ces pays oubliés. Mais c'est mon sentiment à moi et ça ne vaut rien de plus que ça, puisque de toute façon, c'est une pure conjecture et une pure projection. Mais voilà, en tout cas, pour répondre, pardon, je réponds avec des longs détours, je suis désolé. Mais les photojournalistes, sont entre deux, quelque part, entre deux exigences et entre deux modes de financement de leur travail et entre deux types de travail. D'un côté, un travail beaucoup plus personnel, singulier, de long et sur le long terme. Et de l'autre côté, la presse qui va vite, qui doit répondre à une demande.
Oui, bonjour. J'avais une question sur le film, sur une partie particulière. Je trouve une grande sensibilité dans l'ensemble du film, bien sûr, de l'actrice principale, mais aussi des acteurs. Et je vois au générique qu'il y a peut-être une centaine, voire plus d'acteurs. Et je suis curieux de voir comment vous avez réussi à les mettre aussi présents et aussi à crever l'écran.
Ouais, je vous remercie pour votre question. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux répondre.
Comment vous vous êtes organisé pour qu'il soit à ce niveau de présence, d'authenticité, je dirais.
J'ai essayé de faire mon travail. Bon, ce qui est un peu particulier dans mon travail, moi j'aime beaucoup travailler avec les acteurs non professionnels. Et donc dans Camille, c'est un casting qui est mixte, puisque les acteurs, Nina Meurice évidemment, mais aussi les trois journalistes du groupe de journalistes sont des acteurs professionnels. Mais côté centrafricain, on n'a que des gens qui n'avaient pas d'expérience de jeu. Moi j'aime beaucoup travailler avec les non professionnels et à les amener dans le cinéma justement. Et donc, comme toutes ces scènes à l'université, avec les étudiants. Et là, je travaille beaucoup avec dans le film, il y a pas mal d'improvisation, il y a pas mal de... Et c'est comme ça qu'on a une forme de naturel et de spontanéité. Si vous voyez, par exemple, la scène où ils chantent tout d'un coup, ils chantent sur le gozo. Le gozo, c'est la boule de manioc. Et ils chantent à l'université, comme ça. Et en vrai, cette scène, ça ne devait pas être ça. Ça devait être... Il y avait une scène qui était écrite, hein, qui tournait un peu autour des mêmes questions, mais qui était... Il n'y avait pas de musique dedans et tout ça. Et puis c'est pendant qu'on était en train de... L'équipe était en train de faire la lumière, les gars, la lumière. Ils ont commencé à faire de la musique entre eux, comme ça. Et puis, j'ai trouvé ça super. Et j'ai dit, mais en fait, c'est ça, la scène. Et donc, on a commencé à greffer la scène sur ça. J'aime beaucoup quand dans le dispositif de cinéma de fiction, même s'il y a un scénario qui est écrit, s'il y a des scènes, qu'on arrive à préserver de la spontanéité, de l'improvisation, que en fait, les gens qui sont sur le plateau donnent quelque chose d'eux et ne viennent pas juste interpréter des lignes qui sont écrites. Parce que ça ne marche jamais, et ça marche surtout jamais avec des comédiens non professionnels. Donc voilà, il y a ça que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup faire ce travail où la matière du film, elle se fabrique beaucoup sur le plateau et parfois un peu contre le scénario. C'est-à-dire que vous avez écrit des scènes avec des lignes, puis vous arrivez sur le plateau, vous avez les gens avec qui vont faire la scène, et puis vous dites, ça ne va pas marcher, ça. Donc on met tout à la poubelle, 3 ans de travail, et puis on dit, OK, maintenant on va chercher, et puis on va trouver ensemble. On a réussi à épuiser la moitié de la salle déjà.
Oui.
Moi, je suis inépuisable. Hein.
Oui. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
D'abord, bravo pour votre travail. Bravo. Merci à Madame Lepage d'avoir autorisé ce travail. Même si, désolé, je vais parler de moi pendant 30 secondes. Je suis originaire de Centrafrique. Je connais bien ce pays. Je peux attester au cas où certains doutaient des lieux qu'on a pu voir dans le film. Je vous avoue aussi que je m'étais précipité pour voir l'exposition photo de Camille, autant j'avais jamais vu votre film encore, parce que j'avais considéré qu'il manquait peut-être assez de recul pour pouvoir raconter cette histoire. Aujourd'hui, je ne suis pas déçu, on a la chance de vous avoir, d'avoir Madame Lepage qui peut accompagner... ce film avec ses explications. Et donc j'avais un tas de questions à vous poser, mais notamment celle-ci, comment les autorités centrafricaines de l'époque ont accueilli votre projet? Est-ce qu'il était accompagné? Est-ce qu'il y avait une crainte? Est-ce qu'il y avait des suspicions? Et aussi une question pour Madame Lepage, est-ce que les autorités de l'époque ont soutenu la famille de Camille ou les autorités actuelles? Merci.
Alors, quand je réponds d'abord, Marie-Vonne. Quand j'ai commencé à préparer le film, on s'est dit, oulala, ça va être quand même quelque chose, parce que on doit tourner en plein Bangui, dans un film où il y a jamais, enfin, dans un pays où il y a quasiment jamais eu un film de fiction tourné. Le seul film centrafricain de l'histoire du cinéma, c'est Le Silence de la Forêt, qui avait été tourné déjà 10 ans avant, mais plutôt à la campagne qu'en ville. Et on s'est dit, ça va être quand même très compliqué. On peut faire ça qu'avec les autorités très haut niveau. Donc, j'ai commencé à essayer d'approcher des conseillers présidentiels. Rien n'a fait. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, il y a le 14 juillet bientôt, le président va venir à l'ambassade de France. Et donc là, avec quelques complices, j'ai attendu le mot. On m'avait dit, tu vas avoir une fenêtre de tir de 5 minutes. Et donc, j'ai attendu que le président, Touadéra, arrive au bout du buffet. Et là, j'avais ma fenêtre de tir, ses conseillers étaient prévenus. Et donc, je lui ai parlé, je lui ai expliqué, je lui ai expliqué 3 choses. J'ai préparé un petit dépliant pour y présenter le projet en quelques lignes et tout ça. Et je lui ai présenté le projet. Je lui ai dit qu'est-ce que ça allait raconter. Je lui ai dit bah, c'est en même temps une occasion pour la Centrafrique, qui est un film international qui se tourne là. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, moi, ça fait 1 an que je fais de la formation dans le pays, et puis tous mes élèves vont participer au film. Et il m'a dit, OK. Il est reparti à ses autres affaires, la fenêtre était finie, c'était refermé. Mais avec ce OK, après, on est allé voir tous les ministres. Non, mais c'est quand même assez incroyable, parce qu'on peut imaginer que pour faire un film, il faut aller voir le président et puis 5 ou 6 ministres. Mais on est, de fait, allé voir tous les ministres. D'abord, le ministre de l'Intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur, on l'a attrapé au moment où il était en train de partir à l'aéroport. Et on a eu une fenêtre de tir encore plus réduite, 2 minutes, parce qu'il était en train de partir déjà. Et il a dit OK, il a décroché son téléphone, il a appelé le directeur général de la gendarmerie, le directeur général de la police. Et après, facile, quoi. Une fois que c'est comme ça. Et parce qu'à tout le monde, on a dit nous avons la bénédiction du président. Et avec la bénédiction du président, on peut tout faire, quoi. Et c'était vrai, donc c'était voilà. Donc c'est vrai qu'on est allé vraiment chercher les autorisations au plus haut niveau, quoi. Donc pareil, il y a un moment, par exemple, le camp des anti-Balaka, il est tourné dans une école, donc il fallait l'autorisation du ministère de l'Éducation. La morgue elle dépend du ministère de la Santé, il fallait l'autorisation du ministre de la Santé. Donc on allait voir tous les ministres, en fait, les uns après les autres. On voulait des armes, hein, donc il fallait voir la ministre des Armées pour qu'elle nous donne des vieilles armes pourries. La ministre des Armées, femme charmante, je me souviens très bien de ce rendez-vous. Donc on a vraiment fait le tour de tous les autres. Et globalement, les autorités ont été super avec nous. Et franchement, c'était un tournage, de ce point de vue-là, facile. J'avais beaucoup plus craint avant que ça allait être compliqué et tout ça, mais ils ont été super avec nous, ils ont beaucoup aidé. Et donc, pendant tout le tournage, après, on avait toujours, tout le monde voulait participer. Donc, on avait toujours un véhicule de police, un véhicule de gendarmerie, un char des Nations Unies. Il y avait aussi après les gens de la police municipale qui disaient mais nous aussi on veut participer, donc ils venaient aussi. On avait trop de monde avec nous, on savait plus comment. Mais en même temps, du coup, c'était assez facile. On a pu bloquer des avenues du centre-ville. On a bloqué l'avenue Boganda pour faire la manif des étudiants. C'est la plus grosse avenue de la ville, en plein centre de la ville. On l'a bloqué pendant des heures. Franchement, des conditions comme ça, c'est rare, quoi. J'ai tourné mon dernier film à Paris. Franchement, c'est plus compliqué. Hein. Bangui, c'est cool. Non, c'était très bien passé avec les autorités.
Bon, moi, je peux répondre à la deuxième partie. Elle va être très simple, ma réponse, parce que moi, on n'a eu aucun contact, nous, avec les autorités locales. Nos interlocuteurs, c'est uniquement l'ambassade de France. Et puis la Sangari, c'est l'armée française qui a été déployée en Centrafrique à l'époque, à Bangui. Et c'est tout. Moi, je n'ai jamais eu de contact autre que ces contacts-là.
Ouais, tu avais quand même des contacts avec les procureurs et avec Centrafrique.
Après, quand on est allé ensemble à Bangui, c'est différent. On en a vu pas mal. C'est déjà une deuxième étape, si tu veux. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Il y en a deux, alors je ne sais pas. Donc, on va essayer de faire vite.
Oui, bonsoir, merci beaucoup. C'est un film très, très émouvant et qui nous plonge en plein dans une guerre fratricide, une guerre civile, et qui fait penser à tellement d'autres guerres civiles qu'on a pu connaître dans notre propre pays, et heureusement, il y a beaucoup plus longtemps. Je voulais revenir sur un des premiers plans de ce film où elle essaye, Camille essaye de présenter ses photographies à un journaliste anglais, américain, je ne sais pas.
Et qui... Dans mon idée, il était américain, mais l'acteur est anglais et il parle avec un accent anglais.
D'accord, donc je n'aurais pas fait la différence. Mais il lui reproche finalement de lui présenter des photographies qui sont objectives et pas assez subjectives. Quel est votre point de vue là-dessus ? Lorsque vous prenez l'histoire d'une jeune femme blanche au milieu de ce continent noir et qui va mourir là-bas, il est évident qu'il y a une forte part de subjectivité et qui nous prend tout le long du film. On est mort de trouille à toutes les 10 minutes. Donc on sent cette violence qui peut se retourner contre elle et son humanité qui va vers la compréhension des autres est doublée d'une espèce d'inconscience incroyable en même temps et qui est bouleversante. Alors voilà, sur cette subjectivité, objectivité, pouvez-vous nous en parler davantage ?
Oui, bien sûr. Je pense pas que ce soit les termes les plus justes que dire subjectif, objectif. En fait, je pense que ce dont parle cet homme qui est donc un directeur photo de magazine... j'en ai rencontré beaucoup des directeurs photos de magazines qui faisaient exactement ça. Je suis allé plusieurs fois à Perpignan, mais il y a une année où je suis allé à Perpignan en repérage et je suis allé suivre des lectures, ça s'appelle lecture de portfolio. C'est-à-dire qu'à Perpignan, tous les jeunes photographes du monde entier viennent et essayent de rencontrer ces directeurs photos, parfois très puissants, de grands journaux, et leur montrent leur portfolio, c'est-à-dire un sujet composé d'une vingtaine de photos, disons, 15 photos. Et le directeur photo de tel ou tel magazine fait la lecture de portfolio, c'est-à-dire il regarde les photos et dit ce qu'il en pense. J'ai assisté à ça un certain nombre de fois, et puis j'ai aussi rencontré et interrogé des gens qui avaient lu le portfolio de Camille, soit à Perpignan, soit après dans leurs journaux plus tard. J'ai essayé de comprendre, moi je ne suis pas photographe, ce n'est pas mon métier, donc j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, et c'est là que justement j'ai compris l'importance de l'editing. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'editing, c'est-à-dire que ces photographes qui partent et qui vont faire 3000 photos, hein, on disait que Camille elle avait fait 60 000 photos, mais disons que par exemple quand elle part dans les monts Nouba, elle fait peut-être 3000 photos, je dis un chiffre au hasard, mais ça va être de cet ordre-là. Et comment avec ces 3000 photos, vous faites un portfolio où il y a 15 photos? Et c'est là que c'est très très difficile, et en fait ce que lui reproche le photographe, c'est pas tant... que ces photos ne sont qu'objectives et pas subjectives, c'est qu'il lui reproche qu'elle ne sait peut-être pas encore elle-même quelle photographe elle est. Et c'est ça la grande difficulté pour les photographes. Et je me souviens que Lorenzo, qui s'est occupé de l'exposition actuelle au théâtre, et qui est aussi une personne que j'avais interrogée, qui m'a beaucoup expliqué, et c'est une des personnes à qui j'ai le mieux compris l'art de l'editing, il m'a expliqué en fait un editing, c'est pas le best-of. C'est pas on prend les meilleures photos qu'on a prises. C'est on raconte une histoire. Il avait été très pédagogue, Lorenzo. Je crois que c'est avec lui que j'ai vraiment mieux compris ce que l'art de l'editing. C'est voilà, la première photo, c'est il était une fois. C'est-à-dire que vous rentrez dans une histoire. Et la dernière photo, c'est ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Ou c'est en tout cas, c'est voilà, c'est une histoire avec un début qui se prolonge et une fin. Et vous devez raconter une histoire. Et cette histoire, c'est à la fois l'histoire, par exemple, du pays que vous racontez. Mais c'est aussi un regard qui se déploie. C'est-à-dire que si vous faites des photos dans des genres qui n'ont rien à voir, il n'y a pas de regard qui se dessine, en fait. Donc ce n'est pas tant la question subjectif-objectif, parce que toutes les photos sont à la fois subjectives et objectives, mais c'est la photo d'un... Voilà, c'est la capacité pour un photographe de savoir quel photographe il est, et donc, avec toute cette masse énorme de photos qu'il a, de composer un editing... qui raconte vraiment une histoire et qui déploie un regard. Et c'est très, très difficile pour les photographes. Et ça, par exemple, Lorenzo me l'expliquait, c'est terrifiant pour les jeunes photographes. Et je crois pour Camille, et j'avais lu des échanges d'emails qu'elle avait avec ses copines, avec Christina, qui était là la semaine dernière, le week-end dernier, et elles envoyaient leurs editings en se disant « mais j'y arrive pas », et s'arrachaient les cheveux. Et comment on... Voilà, c'est la chose la plus difficile pour un jeune photographe. Mais je crois que pour les vieux aussi, en fait, c'est difficile.
Bonjour, je vous remercie pour ce film qui est magnifique, qui m'a replongée dans mon enfance. J'ai grandi en Afrique et j'ai traversé furtivement, mais réellement, le coup d'État au Congo quand j'avais 13 ans. Donc ça m'a beaucoup parlé et j'ai été très vite, ça m'a rappelé des flashbacks et je trouve que vous arrivez très bien à faire ressortir le côté on sait jamais à quel moment la situation va se retourner. J'ai l'impression, alors je connais pas le monde et les guerres à travers le monde, mais qu'en Afrique, il y a une certaine ambiance qui mêle violence et joie de vivre, qu'on retrouve là dans le film. Enfin, ça m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé, Camille, alors je ne sais pas si c'est la réalité ou si c'est de la fiction, mais à un moment donné dit, c'est dur d'être une blanche en Afrique, dans ses liens amicaux notamment, et à travers cette jeunesse, quand on parle de jeunesse, l'Afrique est jeune, hein, ça ne faut pas l'oublier, donc c'est vrai que ce soit en conflit ou en paix, on est entouré de jeunes, très jeunes personnes. Et voilà, je voulais vous poser la question. C'était fiction ou réalité, cette réflexion qu'elle avait sur cette difficulté et puis cette envie aussi de retourner en Afrique, parce qu'elle l'a dit au dîner de famille à Noël, et puis à la presse aussi, à un moment donné, quand elle voit un éditeur, c'est là-bas qu'elle veut aller et pas en Ukraine. Il y a on sent une forme d'attachement et qui est réelle, parce que de toutes les personnes que je connais qui ont grandi en Afrique et qui sont étrangères, qui ne sont pas africains, quand on a grandi en Afrique, il y a un attachement qui est là et qui est éternel.
Je ne saurais pas vous répondre, en fait. Je ne saurais pas vous dire est-ce que Camille pensait ça, disait ça, je ne sais pas. C'est quelque chose que moi, je ressens très fort. C'est dur d'être une blanche en Afrique, c'est dur aussi d'être un blanc en Afrique. Moi, c'est quelque chose qui m'a. J'ai fait deux très longs voyages au Congo avant de découvrir la Centrafrique. Donc, j'ai passé quand même un peu de temps au Congo et pas mal de temps ensuite en Centrafrique. Et c'est vrai que c'était très frappant pour moi d'être le blanc déjà. C'est-à-dire que. C'est quelque chose qui est. Vous vous promenez dans la rue, avant d'être Boris, je suis le blanc, quoi. Et même après être Boris, je suis encore le blanc pour longtemps, même pour des gens avec qui j'ai des rapports depuis longtemps, qu'on se connaît bien, qu'on rigole et tout ça. Et ça donne un... c'est très particulier. Et c'est quoi votre question ? Excusez-moi, je suis vraiment fatigué.
Son attachement à l'Afrique.
Son attachement à l'Afrique. Oui, alors, quand elle refuse d'aller en Ukraine, il y a deux choses. Il y a l'attachement à l'Afrique, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi l'idée que... Parce que, je pense que Camille était attachée à l'Afrique, et de fait, tous les pays où elle a travaillé, c'était en Afrique. Mais je pense que c'est... Enfin, tel que moi, je l'écris dans la scène, mon idée, c'est aussi qu'elle ne veut pas juste aller traiter un sujet de manière mercenaire. Il y a une demande en Ukraine, hop, tout d'un coup, l'attention internationale est sur l'Ukraine, je vais en Ukraine parce que c'est la demande, alors qu'elle n'a aucun rapport avec le pays, qu'elle y connaît rien, que voilà, elle est plutôt... Et c'est là que je vois aussi que Camille est en train, à ce moment-là, de sortir de la logique vraiment photojournaliste pour aller vers une logique de photographe documentaire, c'est qu'elle a envie de suivre son fil. Elle a envie de travailler là où elle a passé du temps, là où elle connaît les gens, là où il y a un rapport fort qui se crée avec les gens, et elle aussi, qu'elle sait ce qu'elle veut raconter là. Elle n'y va pas juste pour traiter un sujet que n'importe qui d'autre peut traiter, etc. C'est une autre manière de travailler, en fait. Mais sur l'Afrique, oui, moi, je l'ai vécu. ce que vous racontez sur le Congo, je l'ai vécu quand j'étais au Congo. Parce que vous avez dit plein de choses différentes, en fait. Vous avez dit plein de choses intéressantes. Mais le rapport, le mélange, voilà, ça, je trouvais ça très intéressant, très juste ce que vous disiez, le mélange entre la violence et la joie. Quelque chose que je trouve très fort dans plein de photos de Camille. Il y a des photos où il y a parfois, et je crois qu'elle a même été très frappée par ce qu'elle photographiait, le fait que vous avez par exemple la scène de la manifestation des étudiants, qui est une vraie manifestation qu'elle a vraiment filmée. En fait, c'est la manifestation des juges et des étudiants, mais qu'elle a vraiment photographiée. Et vous avez une grande joie, que j'adore les photos. On ne les a pas mises dans le film, finalement. Désolé. Mais il y a une très grande joie de ces étudiants qui sortent dans la rue, qui sont contents d'occuper le milieu de la rue et qui chantent, qui crient des slogans, cette joie. Et puis vous avez des photos de pillage et vous avez des photos de lynchage. Et c'est donc des choses terribles, des choses très violentes. Et il y a des... C'est pas complètement différent, en fait. Et c'est assez troublant, en fait, ça. Et ce que vous décriviez sur le Congo, moi, je sais, je me suis trouvé parfois dans des situations où tout d'un coup les choses basculent et autour de moi ça devient très très violent. Et puis tout d'un coup quelqu'un fait une blague et puis ça y est, ça bascule complètement de nouveau dans l'autre sens et tout le monde rigole et il y a quelque chose d'extrêmement violent. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose de l'Afrique que j'ai jamais vu ailleurs et c'est vrai que quand on aime ça, quand on aime cette intensité qui est poussée dans les extrêmes, dans la joie, dans la violence, dans la... Enfin, c'est quelque chose de tellement vivant que je pense que oui, on s'attache à l'Afrique. Je pense sans doute Camille aimait passionnément l'Afrique. Marie-Yvonne, tu veux parler de ça ? Non.
Je crois qu'on peut vraiment remercier Boris parce qu'il est en plein montage et post-production.
Merci à vous. J'étais vraiment content de venir ce soir.
Merci vraiment parce que on sait ce que ça veut dire d'être en plein dans un travail, dans le film suivant, et puis là, de revenir en arrière. Et voilà, tu l'as fait avec beaucoup d'implication et merci beaucoup.